volatile. Vous existez, vous aussi, en surnombre. Mais bon, c'est tombé sur vous. Je vois à quel point cela vous bouleverse, à quel point vous n'étiez pas préparé à m'accueillir. Moi, si petit. Vous, d'ordinaire si organisé, si prévoyant. Bientôt 12 000 cas confirmés dans votre petit pays et plus de 500 morts. Les États-Unis qui atomisent la Chine et puis l'Italie où la Dolce Vita appartient à un passé lointain. De temps en temps, un nom apparaît, celui d'un ancien ministre français, d'une vieille princesse espagnole, d'un chanteur qui lutte pour qu'elle revienne, sa vie d'avant. Sinon, les morts s'en vont, anonymes, gonflés les statistiques. Moi, je les connais tous, de l'intérieur, ceux de maintenant, mais aussi ceux de demain. Vous êtes étrange tout de même, une quinzaine de jours d'enfermement et vous parlez déjà d'un changement de civilisation. Avec les pigeons, ça aurait fait moins de bruit, ils seraient morts, c'est tout. Un changement de civilisation. J'ai du mal à imaginer. Aidez-moi. Après l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'ère industrielle et l'ère numérique, il y aurait quoi? L'ère de l'après-moi? Ce serait me faire trop d'honneur. Je ne change pas votre civilisation. Je la décime. Regardez mon œuvre. Même celui qu'on appelait la bête est au sol. Il faudrait d'ailleurs que quelqu'un appelle les secours, d'urgence même. Il ne va pas passer la semaine. 15 jours d'enfermement, aveugle que vous êtes confiné depuis bien plus longtemps. Dans votre petit 3 pièces, sur vos petits écrans, dans vos petites histoires, vos petites vies, ne savez-vous pas qu'avant déjà vous viviez recroquevillé sur vous-même ? Pour Derek, la bête, il faut pas tarder. Alors votre changement de civilisation, mesdames et messieurs les sapiens, permettez-moi d'en douter. Avez-vous des nouvelles de Léa et Antoine? Je me sens un peu responsable de ce qui leur arrive. Se confiner sans se connaître alors que je rôde est imprudent. Ils ont eu quelques beaux jours, quelques belles nuits, mais je dois vous avouer aujourd'hui qu'ils n'étaient peut-être pas seuls dans cet appartement. J'en suis vraiment désolé. N'y voyez rien de personnel.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 15e jour. Lundi 30 mars, à 8h du matin, il est apparu sur le visiophone. Elle a pris le combiné et elle a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a dit « Ouvre, s'il te plaît. » Elle a raccroché. Mardi 31 mars, à midi, il a surgi une nouvelle fois sur l'écran. Il a supplié « Ouvre !» Elle a refusé. « Pas question, je sais pas où t'as traîné. » Il a insisté « Alors laisse-moi au moins te parler. » Elle a soupiré, dit « Ok, tiré une chaise. » Elle s'est assise face au moniteur sur lequel le visage d'Antoine s'affichait en gris, strié de lignes horizontales dues à la vétusté du matériel et de cernes. Bien réel, cela. Il a expliqué qu'il avait pété les plombs quand le flic était venu enfoncer la porte de la voisine, que son cerveau était devenu une pierre ponce, poreuse à tous les stimuli de son environnement, à toutes les idées noires qui passaient à sa portée. Il a raconté qu'il avait reçu un message de son pote Jim la veille, aussi flippé que lui, mais ravitaillé de frais en whisky et autres substances moins licites. Jim, qui rassemblait chez lui, à 1,50 m de distance et avec un lavage des mains obligatoire toutes les demi-heures, quelques copains que le confinement rendait aussi dingue chez lui. Antoine y était allé, s'était saoulé dans une ambiance lourde que la transgression n'arrivait même pas à rendre excitante. La conversation n'avait tourné qu'autour de statistiques morbides et de noms de personnalités malades. Ils avaient écouté un album de Christophe, comme si ça pouvait lui faire du bien. Antoine était rentré chez lui en fermant un œil, en se tenant au mur, avec la nette impression d'être une merde, un collabo, un sale type, à cause de l'inconscience duquel le pays entier allait devoir rester confiné 2 mois de plus. Le lendemain, il avait essuyé la pire gueule de bois de son existence, une descente comme jamais il n'en avait vécu, et il était rapidement arrivé à la conclusion qu'il était indigne de Léa et qu'il valait mieux faire le mort dans ce cas. Mais elle lui manquait. Il voulait la revoir pour lui dire ça, pour qu'elle comprenne qu'il n'était pas parti à cause d'elle. Il voulait qu'elle sache qu'il se sentait affreusement mal et qu'il avait des sentiments pour elle, des vrais. C'était rapide, il savait. Mais c'était ainsi, il la kiffait. Léa est restée silencieuse un instant, puis elle a dit « T'as vu qu'une enfant de 12 ans était morte en Belgique ?» À travers l'écran, Antoine a poussé un gémissement douloureux. « Tu sais que t'es un putain d'irresponsable, qu'on ne plante pas les gens comme ça, surtout maintenant, surtout pour aller faire la fête avec une bande de demeurés. » Il a gémi encore. Tu sais que même si j'en avais envie, à cause de tes conneries, je ne pourrais pas t'accueillir chez moi. Tu sais que t'as peut-être chopé ce truc et que tu risques de me le transmettre. Déjà que le voisin du dessus crache ses poumons. Il a baissé les yeux vers le trottoir. Léa a cru voir une larme. Son ventre s'est serré. Elle a poursuivi. Tu sais que plus de 1000 personnes sont en soins intensifs. Tu sais que 786 ont besoin d'une assistance respiratoire. Que 98... Il a dit stop. Il a levé les yeux vers la caméra et les a plantés dans les siens. Une seconde. Deux secondes. 10 secondes. Antoine a avancé la main doucement et elle a senti sa joue picoter. Il a chuchoté « Je suis désolé ». Léa a pressé l'ouvre-porte. Pendant qu'il faisait l'amour, Antoine a pensé à la Chine et à ses chiffres peut-être tronqués. Léa, quant à elle, a pensé à la bête et a désinfecté la rampe d'escalier. Ils ne se sont pas embrassés, mais ils ont écouté une bien jolie chanson.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 16e jour. Mercredi 1er avril, 10h. Léa et Antoine traînent au lit. Antoine remarque que la housse de couette n'est pas la même que celle de la semaine dernière, mais il est trop bien pour lui demander si, pour elle, changer les draps, c'était une façon de le chasser de son esprit, de sa vie, de son lit. Non, il est trop bien. Et il se dit qu'un 1er avril, c'est le bon moment pour faire des blagues à la con sous la couette. Alors il dit à Léa, « Je sais pas comment font les autres, mais faire l'amour à 1m50 quand même, j'ai beau être gâté par la nature, c'est quand même pas simple. » Et Léa de pouffer. « T'as deux quartiers de mandarine à la place du cerveau, mais à 1m50, tu pourrais me faire jouir rien qu'en me regardant. » Léa ne sait pas ce qu'il a ramené de bon de sa virée à l'extérieur, sans masque, sans gel, sans se laver les mains, sans rien. Léa pense que désormais, à chaque fois qu'elle fait l'amour avec Antoine, elle fait l'amour sur une table de casino, que leurs corps sont comme deux billes jetées dans la roulette, deux billets à gratter. Faire l'amour avec lui, c'est devenu la loterie. Et elle se dit qu'elle doit avoir l'amour du risque, puisqu'à celui d'attraper le coronavirus, elle ajoute aussi toutes les MST qui passaient par là, puisque c'est bête, mais c'est comme ça, ils sont tombés en panne de préservatif. Comme s'il lisait dans ses pensées, Antoine vient se coller contre le flanc de Léa et gémit en faisant le petit garçon. « Madame, madame, j'ai envie de faire des bébés. » Au moment où Léa se retourne pour le rejoindre, ils sont interrompus par le fracas de quelque chose de lourd qui tombe dans les escaliers. Antoine saute du lit, enfile son boxeur et court à la porte pour voir ce qu'il se passe. Quand il ouvre, il découvre un type affalé entre les dernières marches de l'escalier et le palier. Le corps désarticulé, les yeux apeurés, le thorax qui monte et qui descend à une vitesse anormale. Léa vient rejoindre Antoine devant la porte ouverte. Quand elle voit qu'il veut sortir sur le palier, elle crie « Ne t'approche pas, rentre !»« Mais Léa, il faut aider cet homme. Ne t'approche pas, je te dis. Mais attends, calme-toi, je vais voir ce qu'il a. » Léa est paniquée, elle hurle « Non, tu rentres. Il est contaminé, je t'en supplie, rentre. On va appeler les secours. » 14 minutes plus tard, ils ouvrent aux ambulanciers qui placent immédiatement l'homme sous oxygène et l'emportent. L'un des deux a juste le temps de demander à Léa et Antoine à travers la porte, parce que Léa n'a pas voulu la rouvrir, s'ils connaissent la victime. Quel est son nom et où elle habite? Léa répond, haut et fort pour qu'il entende bien, « Il s'appelle Derek Smensk, c'est mon voisin du 4e. » Derek Smensk? Non, Smensk, S-M-E-N-S-K, enfin je crois. Merci madame. Attendez, vous l'emmenez où? À l'hôpital le plus proche, s'ils peuvent encore le prendre. L'évacuation de la bête plombe le reste de leur journée et la soirée n'est pas meilleure avec des chiffres de contamination qui placent la Belgique dans le club des pays européens les plus touchés par l'épidémie. Léa et Antoine s'endorment, blottis l'un contre l'autre. Le lendemain matin, on sonne. Léa se lève. Sur l'écran de l'interphone, elle voit un jeune type, les traits tirés, en parka jaune fluo. Elle dit « Oui ?» Il dit « Excusez-moi de vous déranger, madame. Je suis l'ambulancier qui est intervenu hier pour votre voisin. Comme je n'habite pas très loin, je me suis permis de passer pour vous dire qu'il est stabilisé. Il est sous respirateur. » Elle dit « Vous vous appelez comment ?»« Je m'appelle Julien, madame. » Et Léa est traversée par cette pensée qu'il n'y a rien de plus beau au monde qu'un homme qui sauve un autre homme.
La première, 11h30, 13h, entrez sans frapper.
Hier, jeudi 2 avril, 9h06, après avoir eu l'ambulancier à l'interphone, Léa retourne se coucher. Elle n'a pas envie de se lever tout de suite, elle a envie de s'amuser un peu avec le corps d'Antoine. Elle ressent une forme d'urgence à s'offrir du plaisir avec lui, depuis qu'elle a compris qu'il pouvait s'en aller comme ça, sans prévenir. Ou alors c'est autre chose, une autre urgence. Celle de la mort qui rôde là, tout près, jusque dans son immeuble. Léa se glisse sous la couette et vient coller ses pieds froids contre les jambes d'Antoine. Il lui tourne le dos, s'éloigne un peu, elle pense « peut-être qu'il veut dormir encore, peut-être qu'il est trop tôt ». Elle se blottit dans son morceau de couette et se rendort, sans se poser de questions. 9h46. Antoine se glisse hors du lit, il n'a presque pas dormi de la nuit. L'image de ce pauvre type à moitié inconscient dans l'escalier le hante, mais plus que tout, c'est sa propre attitude qui le tourmente. De grandes bouffées de honte l'assaillent et lui dévorent les viscères tandis qu'il se prépare un café. Il est rentré dans l'appartement. Il s'est protégé. Il a attendu l'ambulance derrière la porte, comme un con. Ce type était là, à 2 mètres de lui, bien conscient de ce qui était en train de lui arriver, suffoquant, les poumons comme pris dans un étau, vivant peut-être ses derniers instants. Et lui, Antoine, s'était mis à l'abri derrière cette foutue porte. Bien sûr, ça n'était pas son idée. Bien sûr, il avait obéi à Léa, mais ça restait son choix. Personne ne l'avait forcé. Et Léa ? On ne peut pas dire qu'elle se laissait étrangler par son courage. Il a obéi, mais il n'a pas aimé sa réaction. Depuis d'ailleurs, elle ne semble pas plus émue que ça. Mais Antoine sait aussi qu'il est dangereux de faire des suppositions, qu'on ne sait jamais ce qu'il se passe dans la tête des gens et que le plus sage et le plus simple, quand on veut savoir, c'est de poser des questions. Il faut qu'il ait cette conversation avec Léa, il faut qu'il lui demande comment elle a vécu la scène de la veille, mais il ne sait pas du tout comment aborder le sujet sans avoir l'air de la juger. Alors quand Léa le rejoint dans la cuisine, l'enlace et glisse ses mains sous son t-shirt, il se tait et avale son café d'une traite en se brûlant la langue. 20h10. Léa dit « à table » en sortant un plat de hachis parmentés du four. Aujourd'hui, elle a eu envie de cuisiner, ce qu'elle ne fait jamais quand elle est seule, mais quand il y a quelqu'un qui partageait leur pas, c'est autre chose. Elle s'est jointe aux applaudissements de 20h, puis a dressé la table avec serviettes et bougies de couleur. En servant les assiettes, le silence d'Antoine la met mal à l'aise. Alors elle essaye de meubler. « Tu as vu que l'augmentation des hospitalisations ralentit chez nous ?» Mais elle sent bien que ça tombe un peu plat. Comme quand on essaye de dire un truc positif parce qu'on a quelque chose à se faire pardonner, sauf que Léa ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Vendredi 3 avril. Antoine ouvre un œil, il a passé la nuit à repenser à son ex, Karen, qu'il avait trompé depuis quitté parce qu'il n'avait jamais été capable de communiquer avec elle. Enfin, c'était plus compliqué que ça allait toujours, mais le manque de dialogue avait joué une part considérable dans la débâcle de leur relation. Il fallait donc qu'il parle à Léa ou qu'il s'en aille d'ici.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 20e jour. Ce matin, en ouvrant les yeux, il lui a dit « 20 jours déjà ». « 20 jours quoi ?» elle a répondu. « Que tu t'es invité chez moi ?» C'est toi qui m'as invité, a-t-il précisé. En 20 jours seulement, ils s'étaient rencontrés, découverts, reniflés, séparés, pour enfin se retrouver. Une vie, quoi. En 20 jours. Seulement. Ce qu'il voulait dire, c'était la pause, l'interruption, l'escale. Et ce qui le réjouissait dans cette situation. Il a enchaîné. Tu sais quoi ? Nous aurons le souvenir d'avoir, au moins une fois, eu le droit de vivre au ralenti, avant que tout ne reprenne. Avant qu'il ne faille courir à nouveau, avant que mon connard de patron me rappelle, avant que ta boîte d'intérim te dise qu'il n'y a plus de boulot car il y a trop de candidats, avant que ces imbéciles de politique ne s'en sortent sans la moindre égratignure, avant que les avions ne décollent à nouveau, avant que les enfants ne doivent se relever à 6h30 pour aller à l'école, avant les embouteillages, avant le métro bondé, avant la pompe à essence, avant que le téléphone ne se remette à sonner, avant le retour du bruit, avant la course. Oui, on aura le souvenir d'avoir au moins une fois eut le droit de vivre au ralenti, avant le retour du monde d'avant. Tout le week-end, Il avait cherché à engager la conversation. Sans jamais trouver le bon moment, ce lundi matin, dans ce lit, il allait finalement en venir au fait. Dire à Léa qu'il n'avait pas aimé qu'elle l'empêche de s'approcher de la bête quand il suffoquait dans la cage d'escalier. Elle lui avait dit « Non, ne l'approche pas ». Et comme un petit chien, il n'avait pas approché. Il s'en voulait. Et il en voulait aussi à Léa de lui avoir donné l'ordre de s'écarter. « Mais on a appelé l'ambulance, c'est ce qu'il fallait faire », a-t-elle rétorqué. Ce qu'il fallait faire, c'était s'approcher de lui, lui dire qu'on était là, qu'il ne devait pas avoir peur, qu'on avait appelé les secours, que ce mec est quelqu'un à côté de lui. « Mais il est malade, tu veux te choper ce truc, toi ?»« Tu veux la vérité ?» répond-il. « Je m'en fous. »« Ah bon ?»« Oui, je m'en fous. J'ai 30 ans. Ce truc ne va rien me faire. »« Ah, c'est comme ça que tu penses, toi ?»« Oui. » »« En fait, j'ai t'expliqué un truc, a-t-elle dit rageuse. » Pour toi, effectivement, ça ne fait rien. Mais pour les autres, si tu te le chopes, tu les mets en péril. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est pour ça que tu as passé la soirée chez tes potes. Parce que tu comprends pas ça, parce que tu es égoïste. Parce que tu ne captes pas qu'il n'est pas question que de toi. Il est aussi question des autres. Qui les autres ? Mais tes parents, par exemple. Je n'en ai plus. La mort des parents, j'ai toujours un froid dans les discussions. Ce fut le cas cette fois aussi. Eh bien... « Tu pourrais me le refiler à moi aussi, » s'est-elle repris. « Ça aussi, je m'en fous, » a-t-il répondu. « Parce que toi aussi, tu as 30 ans. Et tu ne vois que moi pour l'instant. Et tu sais quoi ? Je ne te connais que depuis 20 jours, mais je suis prêt à être malade avec toi. Et puis à prendre ta température, t'essuyer la morve du nez, te faire une bouillotte pour que tu aies moins froid, faire ta toilette si tu n'as pas le courage de te lever. Je vais te dire, si je devais changer tes couches ou vérifier ta sonde gastrique, je le ferais. « Mais tu m'aimes alors ?» a-t-elle souri. Il a dit « Je pourrais t'aimer si tu ne laissais pas des mecs crever tout seuls dans ta cage d'escalier. » À l'hôpital, la bête, intubée, a été plongée dans le coma. Dans l'ambulance, il a trouvé les forces de sortir son portefeuille et en extraire un bout de papier sur lequel était noté un numéro de téléphone qu'il a tendu à l'ambulancier, sans un mot, sans une explication. Une fois le patient pris en charge par les urgences, Julien, l'ambulancier, a saisi son téléphone et composé le numéro. Au bout du fil, une voix de femme. « Allô ? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je ne sais même pas qui. J'appelle, on m'a donné votre numéro. »« Qui vous l'a donné ?» a répondu la voix. « Un certain Derek Smensk. » La femme n'a pas répondu, alors il a enchaîné. « Vous le connaissez ?»« Oui, c'est mon père. »« Je vous appelle, madame, car il a été emmené à l'hôpital à cause de ce satané virus et il a demandé qu'on vous appelle. » La fille a juste répondu. « Ok. » Prévenez-moi quand il sera mort. Et elle a raccroché.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin le 21e jour. Mardi 6 avril. C'était qui ? C'était rien. Le visage de Claire dit pourtant le contraire. « Tu es sûr que ça va ? On dirait que tu viens d'apprendre que le confinement est prolongé de 2 mois. C'est bon, Michel, lâche-moi un peu, tu veux ?» Claire se réfugie dans la cuisine. Ce que cet ambulancier vient de lui dire au téléphone la bouleverse plus qu'elle ne le voudrait. Et ça l'emmerde. Elle ouvre le frigo et se sert un verre de vin blanc. Michel la rejoint. « De plus en plus tôt, bravo !» Michel éclate de ce gros rire que Claire commence à ne plus supporter. Son verre en main, debout face à la fenêtre qui donne sur le petit jardin, elle croise les bras et ne lui répond pas. Vaut mieux ne pas se mettre de l'huile sur le feu, ça risquerait de finir comme il y a 3 jours. Elle n'en peut plus de vivre avec cet abruti dans 30 mètres carrés, lui non plus ne le supporte plus. Une semaine de plus et il y aura un mort. On ne peut pas dire que Claire ait eu de la chance avec les hommes. Sa mère non plus d'ailleurs. Et toutes les deux en ont un en commun, Derek, son père, un champion du monde. Enfin, père, c'est vite dit. Et champion du monde, ça dépend de la catégorie. Elle ne sait plus depuis combien de temps elle n'a pas pris de ses nouvelles. 8 ans, 10 ans, elle se souvient juste de la dernière phrase qu'elle lui a balancée. « Va te faire foutre, je ne veux plus jamais te voir. » Et aujourd'hui, depuis ce maudit coup de fil, elle rumine, enchaîne les verres de blanc, remue un passé qui ne fait pas que du bien. Vers 21h, une image surgit, puis une idée. Dans l'état où elle est, ce sont les idées les plus folles qui surgissent. Les plus stupides aussi. Le lendemain, Claire a mal de tête. Mais son idée ne l'a pas quittée, elle en a même rêvé cette nuit. Elle s'est vue prendre sa voiture, conduire une vingtaine de minutes en évitant les boulevards et les grandes avenues pour ne pas être contrôlée, enfin garer sa voiture en face de la maison où il a son appartement, tirer de son sac le double des clés qu'elle a gardé malgré tout, prier pour que les serrures n'aient pas été changées, y introduire la plus grosse clé, monter au quatrième, entrer dans l'appartement, enfin mettre la main sur ce qu'elle cherche. Elle a rêvé de ça dans le moindre détail, alors elle se dit que, puisque dans son rêve tout s'est bien passé, elle va le faire. Sauf que ce matin, elle ne parvient pas à mettre la main sur ce maudit double des clés. Elle fouille tous les tiroirs, toutes les armoires où elle aurait pu les ranger. En vain. Tant pis. Je vais faire quelques courses, lance-t-elle à Michel, vautré dans le canapé, comme d'habitude. Pas de réponse. Elle sort de la maison et ouvre les portières à distance. Il fait beau, il n'y a personne dans les rues. Arrivée à destination, elle se gare, sort de sa voiture, se plante devant la porte d'entrée de la maison, regarde les noms écrits sur les sonnettes et appuie sur celle où il y a écrit « Léa ».
La première, 11h30-13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 22e jour. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Une minute que Claire patiente devant la porte de l'immeuble de son père. Au parlophone, c'est un jeune homme qui répond. Allô ? Oui, allô, bonjour, désolé de vous déranger, je suis la fille de votre voisin du quatrième. De la baie. Oui, pardon de sonner chez vous comme ça, les autres n'ont pas pu m'aider. Vous êtes au courant de ce qui lui est arrivé ? Oui, je sais, il a été emmené à l'hôpital. On a attendu l'ambulance avec lui. Je suis navré, je peux faire quelque chose pour vous. Mais vous ne sauriez pas où je pourrais trouver un double des clés de son appartement par hasard?